Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Chronique d'un siècle par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Aujourd'hui, je vous présente la seconde partie des poilus face à la mort. Dans la précédente émission, j'avais présenté de façon générale ce qui avait construit, soutenu, aidé les poilus à vivre ou à mourir pendant ces 4 ans de boucherie. Ces hommes que certains historiens contemporains osent présenter comme des hommes différents de nous, plus robustes, plus durs au mal, plus aptes à supporter les souffrances, étaient pourtant des hommes comme nous, avec leur joie, leur souffrance, leur peur. Ils n'étaient ni plus ni moins robustes que nous, et il suffit de se souvenir que beaucoup d'entre eux moururent d'insolation lors des grandes marches d'août et septembre 1914. Voici d'ailleurs ce qu'écrit Léon Wörth dans ses souvenirs de la guerre dans Clavel soldat. Le régiment avait marché de 5h du soir à 8h du matin, sans autre repos que la halte de Nancy et les haltes horaires. La nuit, on avait froid, même en marchant. Quand le régiment quitte Condreville, à midi, la chaleur est torride. Bientôt, la marche devient titubante. Des hommes tombent. Beaucoup restent en arrière. Les compagnies se mélangent. Et dans Aimé Boursicot, nous pouvons lire dans ses souvenirs l'arme de guerre. Nous n'avions plus qu'un sous-lieutenant pour commander la compagnie. Et plus d'ordre de marche. C'était au petit bonheur. Quelquefois, nous étions échelonnés sur plus d'un kilomètre. Inutile de vous dire s'il y avait des traînards. Quand par hasard on faisait quelque halte horaire, on ne prenait ni le temps de défaire le sac ni rien. Chacun se laissait tomber où il se trouvait, ne serait-ce que sur un tas de pierres ou même dans de la boue s'il y en avait eu. On n'était pas tombé que quelques-uns dormaient de leur plus profond sommeil. J'entends toujours le petit sous-lieutenant crier « Troisième compagnie, debout !» Troisième compagnie, debout! Mais il le répétait 20 fois avant qu'il y en eût un seul qui bouge. On reprenait notre douloureuse marche sans savoir où l'on nous conduisait. Alors ces poilus, vêtus de leurs pantalons rouges et de leurs vareuses bleues nuit, comment s'encourageaient-ils pendant ces marches interminables dont ils ne connaissaient pas le but? Ce qui fut l'une des grandes angoisses de ces hommes. Et cela pendant toute la guerre, car l'état-major se refusait à donner des informations sur les lieux dans lesquels se rendaient les compagnies. En fait, seuls ces hommes savaient comment ils tenaient. Et Alphonse de Chateaubriand, Chateaubriand avec un T, et non pas René de Chateaubriand, celui des Mémoires d'Outre-Tombe, Alphonse de Chateaubriand, un écrivain qui était né en 1877 et qui est mort en 1951, tenta d'expliquer dans une de ses lettres comment il continuait. Alors il écrit « L'instinct égoïste de la conservation vous fait un blindage. On s'est fait des jambes pour les routes sans fin, des estomacs pour pain sec. » Nous, un peu plus de 100 ans plus tard, nous ne pouvons que tenter de comprendre au travers des témoignages que ces hommes ont laissés. Aussi, tout ce que j'avance ne sort pas de mon imagination, mais des lettres, des livres, des témoignages oraux que ces poilus nous ont transmis avec l'idée du « plus jamais ça ». Un petit intermède avec une chanson créée en mars 1914 par un comique troupier, Charles-Joseph Pasquier, qui se fit connaître sous le nom de Bach. Oui, il se permit de prendre le nom du compositeur. En août 14, lors de ces longues marches, des traversées de villages, des premiers obus, un chansonnier mobilisé la chante à ses camarades. C'est un succès. C'est un succès qui accompagnera les poilus jusqu'en juillet 1919 lors de la descente des Champs-Élysées. Je vous laisse donc écouter « Quand la Madelon ».
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin pétille. Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le manteau. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon au beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon pas bête en somme lui répondit en souriant, prendrai-je en seul homme quand j'aime tout un régiment. Des amis sont venus, ils ont besoin de moi. Tu n'auras pas ma main, j'en ai besoin pour leur servir du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pas sévère, quand on lui prend la taille ou le manteau, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 Madelon.
Ces jeunes hommes qui partent ont été élevés, ne l'oublions pas, à l'école de la Troisième République. Alors, sont-ils prêts à en découdre avec l'envahisseur, avec l'ennemi que l'on doit bouter hors de la France, à qui l'on doit reprendre les sœurs perdues, l'Alsace et la Lorraine? S'enthousiasment-ils à l'idée de l'aventure qui les attend, ou sont-ils endoctrinés au point de ne plus réfléchir sur leur situation, leurs actes? Certains pensent que la guerre est un jeu d'aventure, une période de liberté absolue. On trouve d'ailleurs dans les témoignages ces phrases. En quelques heures, la guerre a tout bouleversé, mis partout cette apparence de désordre qui plaît tant aux Français. Ils partent sans haine, mais attirés par l'aventure dont on peut tout attendre. L'aventure, le grand mot est lâché. Que ce soit pour les fils de famille, pour les fils de paysans ou pour les fils d'ouvriers, chacun espère changer le parcours qui est déjà tout tracé pour eux. Et puis, il y a aussi cette idée de vacances. C'est l'été. Et voici ce que certains disaient. Il fait très beau. Vraiment, cette guerre tombe bien. Au début du mois d'août, dans son livre « Une soupe aux herbes sauvages », Émilie Carl se souvient de voir partir ses frères et ses amis. Et voilà ce qu'elle entend. « Ça va nous faire des vacances en plein été !» Et oui, ils n'iront pas moissonner. En fait, toute cette jeunesse, quel que soit son milieu, voit dans ce conflit un moyen de rompre avec le quotidien. Ce sont des vacances un peu plus longues que d'habitude avant d'entrer dans une vie formatée d'adulte. Ils avaient envie d'émotions fortes et Antoine Rédier, officier réserviste, se souvient de cette jeunesse et du désir de ces émotions fortes. J'avais 20 ans. Un soir, je conversais avec un camarade et nous souhaitions la guerre. Nous trouvions la vie molle et cherchions le moyen de rendre du courage aux hommes de notre temps et à nous-mêmes, qui ne valions pas mieux que les autres. À cela, mon ami, un remède ! S'en aller la poitrine nue devant les baïonnettes prussiennes et se laisser défoncer ? Non pas, on les défonce, mais on a porté son corps au devant de la mort. Alors on ne trouve plus que le bonheur est de bien dormir, mais de vivre hardiment. Ainsi, le culte de son épiderme avilit l'homme, et quand sa peau a affronté le fer et le feu, il redevient un être noble. Cela peut paraître effrayant, ce genre de passage, mais c'est la jeunesse, et cette jeunesse les pousse à confondre désir et réalité. Et la réalité, c'est le moment précis de l'entrée en guerre de la France. Une autre façon de voir la guerre est celle de Georges Oudart, alors âgé de 24 ans. Il est à l'aube de sa vie d'adulte et il a une attitude quelque peu différente. La guerre devient pour lui et pour ceux de sa génération un moyen d'aborder la vie sous un autre angle que celui qui était prévu. Et c'est aussi un moyen de finir de se viriliser. Une sorte de rite initiatique. Dans les souvenirs d'Oudart apparaît le pacifiste qui dit avec désespoir « Vous n'êtes que des gamins qui vont mourir. » Et là, en fait, ils peuvent lui rétorquer ces gamins que la plupart d'entre eux ont été appelés 2 ans auparavant. Et donc, quand la guerre éclate, les généraux disposent d'armées nombreuses. Galtier-Boissière, le créateur du crapouillot, ne se fait pas d'illusions. Il sait bien que pendant ces années d'instruction, on les a façonnés en vue du combat. Et voici ce qu'il écrit. « Depuis de longs mois, les chefs ont façonné en vue du combat notre esprit et notre corps. Jusqu'à ce jour, l'énergie qui bouillonne en nous ne s'était dépensée qu'en simulacres stériles et souvent risibles. Aujourd'hui, ce n'est plus la petite guerre, c'est la vraie, la grande qui commence. Et tous, nous sommes parfaitement satisfaits et joyeux d'aller exercer le métier que nous apprenons depuis 2 ans. Enfin, nous allons viser autre chose que des silhouettes en carton. » À 50 mètres, tirer de vraies cartouches, pointer notre baïonnette autrement que pour éventrer de grotesques mannequins. Ça, c'est une manière de voir. Aimé Boursicot, dont j'ai parlé tout à l'heure, reçoit la nouvelle différemment. J'allais bientôt toucher à mes 22 ans. Je comptais déjà m'être acquitté d'une partie de ma dette envers la patrie. Mais hélas, l'heure sonna. Où il fallut que je réponde présent à l'appel de mon nom pour prendre place parmi ceux qui devaient verser leur sang pour la France. Il faut rappeler que le service militaire était passé le 7 août 1913 à 3 ans. Drieux-La Rochelle, qui avait fait la guerre de 14-18, écrit dans sa nouvelle Le Déserteur « La guerre n'est possible que pour les jeunes gens ». C'est chez eux l'explosion suprême de l'enfance. Peut-être. Mais l'enthousiasme est souvent dû à l'ingestion d'alcool. Et les témoignages ne manquent pas. Ainsi, Maurice Maréchal, le célèbre violoncelliste, maître de Rostropovitch, écrit le 2 août 1914. « Je suis écœuré par ce que je vois. Un commandant absolument abruti. Il perd ses gants. Et son carnet en 5 minutes, et m'explique vaguement qu'il est très fatigué du voyage, pendant que je le conduis chez le tailleur changer des cuissons. Quel commandant ! On peut trembler en voyant cela, et aussi tous ces réservistes sous qui se vautrent sur le trottoir, en bas. Un autre témoignage, celui d'Étienne Tanty, qui deviendra instituteur. L'après-midi a été pour la plupart des hommes une occasion d'aller se saouler, en sorte qu'à 17h45, au moment de rassembler la compagnie, ce fut un spectacle qui était comique, mais qui n'était que lamentable. Les deux tiers, largement, ne savaient plus où ils en étaient. Ils perdaient tout, ils bouleversaient tout, ils ne tenaient plus debout, s'amenaient à moitié équipés en gueulant. Et tout au long de la guerre, c'est l'alcool qui rendra possible les attaques folles, la course en avant de la mitraille ennemie, ainsi que les cris « Émile Sautour » le 5 août 1915. J'ai toujours omis de vous dire que les Boches étaient ivres les 13 et 14 juillet. Leur élan était beau, mais ils se brisaient au bout de notre baïonnette. Comme des fous, ils avançaient sans se rendre compte du danger. Ce n'étaient plus les soldats qui se dissimulaient lors des premiers jours de la guerre. C'étaient des hommes qui marchaient en avant, offrant à nous tout leur buste. Et ce fut une supériorité écrasante sur eux. Et l'alcool, cela sert aussi à oublier les jours de tranchées. Henri-Aimé Gauthier écrit dans ses carnets de guerre. À peine arrivés, les sacs débouclés, vite, en quête du pinard. Cher, 0,80 le rouge, tant pis. Malgré la température un peu basse, on a chaud. Et un litre, c'est 100 centilitres. Un centilitre, c'est pas grand. Et 100, c'est pas un si gros chiffre. Allons-y pour 200. À 3h du soir, un vent de douce soûlerie soufflait, plus altérant que le simoun. Buvons ! Le porte-monnaie est hernieux. À 5h, les cafés s'ouvrent. Quelle ruée ! Les places sont chères et on ose les abandonner, même un instant, qu'au moment où, à force de prendre du liquide, il faut bien en évacuer un peu. J'y vais passer 2 heures. Pour soulever l'enthousiasme, il fallait mettre en place une mise en scène stimulante. Et ce sont les fleurs que l'on doit mettre sur son fusil ou sur sa pièce, sur ordre du capitaine. À vous, Paul Lintier. Paul Lintier qui, malgré une blessure handicapante du bras, reviendra au front pour se faire tuer. Voici ce qu'il écrit dans ses souvenirs, écrit sur le vif et publié pendant la guerre, juste après sa mort. « Lorsque le train démarre, j'ai comme un éblouissement. Il me semble que quelque chose se rompt dans ma poitrine. Une brève angoisse m'étreint. Reviendrai-je ? Oui. Oui, j'en suis sûr. Mais pourquoi en suis-je sûr ? Ce sont aussi les chants patriotiques auxquels Léon Woerth, cet anarchiste individualiste, se laisse prendre. La musique joue sans brémeuse. Et voici que s'accordent en clavel, par un miracle inespéré, l'émotion élémentaire des musiques de régiment, l'émotion de cirque des parades militaires et l'ivresse idéaliste de sauver la patrie. Alors je ne résiste pas à vous faire écouter cette marche militaire qui souleva l'enthousiasme de milliers de jeunes gens en 1914.
Ces fiers enfants de la Gaule, allez sans trêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la lyre, avec leur sac pour oreiller. Régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui la conduit à l'immortalité. Pour nous battre, ils étaient 100 000, et à leur tête, ils avaient des rois. Le général vieillard des villes faiblit pour la première fois. Voyant certaine la défaite, il réunit tous ses soldats. Puis il fit battre la retraite, mais eux ne l'écoutèrent pas. un soldat restait le dernier. Il se défendit avec rage, mais bientôt fut fait prisonnier. En voyant ce héros farouche, l'ennemi pleura sur son sort. Le héros prit une cartouche, jura puis se donna la mort.
Le régiment de Saint-Brévin reçut la mort au prix de liberté. Mais son histoire glorieuse
lui donne droit à l'immortalité.
Ce chant était interprété par André Dassary. C'est aussi le rappel constant à la Révolution de 1789, en particulier aux volontaires de 92 et à la bataille de Valmy. Ce nom de Valmy fait frémir tous ces jeunes hommes. C'est l'amour patriotique qui ressort de ce nom. C'est là que se déroula la bataille décisive contre les Prussiens. C'est là que fut proclamé le 20 septembre 1792 l'avènement de la Première République. Ce fut la victoire contre la tyrannie. C'est ce que ressentaient, 122 ans plus tard, ces anciens élèves, éblouis par les images d'Épinal de leur enfance et soulevés par le chant de la victoire, appris dès l'école. Ce chant de la victoire que je vous laisse écouter et qui fut écrit en 1794 par Marie-Joseph Chénier, le frère du poète guillotiné, André Chénier, et la musique est d'Étienne Nicolas Méhul.
Les ennemis de la France, roi du représentant.
aussi tenir compte, dans cette surexcitation joyeuse, des retrouvailles entre copains. J'ai vu tous mes anciens copains, tout contents d'aller en Allemagne, écrit Léon Hugon à sa femme. Et puis, le service militaire, ça développe l'esprit de corps, comme l'écrit Pierre Chêne dans Mémoire d'un rat. Du jour où le colonel eut disposé de ma vie, un lien mystérieux m'unit au régiment. Cette jeunesse partira dans une singulière ivresse où se mêlent à l'enthousiasme patriotique le goût de l'aventure et la soif du carnage, écrit Galtier-Boissière dans La fleur au fusil. Mais tous ne se sont pas laissés happer par cette ivresse ou par la liesse populaire. Cet enthousiasme guerrier, ce besoin de fanfaronnade, cette ostentation à faire son devoir ne sont pas au goût de tous. Ainsi, Florian Parmentier, dans L'ouragan, évoque la joie surfaite et programmée, l'angoisse planant sur tous ses cortèges, l'ambiguïté des sentiments, l'étrangeté de l'ambiance. Le jour du départ est arrivé. À son tour, Gabriel Pessonnier se dirige vers sa destinée. Résolu comme le sont tous les autres, unité perdue entre des groupes de manifestants, les figurants embauchés pour entraîner les autres, ceux qui ne partiront que plus tard ou jamais, et dans un écoulement silencieux d'hommes dont l'heure est venue. Depuis quelques jours, quel étrange bouleversement dans tout ce qu'on rencontre. Avec l'atmosphère de Paris, si subtile d'habitude, on respire une lourde anxiété, tour à tour fière, bruyante ou lugubre. Soi-même, on se sent vivre dans une sorte d'égarement, dans une espèce de contemplation crépusculaire. Il semble que les rues palpitent de formes invisibles qui sont comme les mille visages du malheur. On a vaguement l'impression que le cœur du monde s'est arrêté. On dirait que les créatures haletantes se sont serrées tout autour de soi, que la chute de milliers d'âmes moribondes vous pèse aux épaules, et qu'une présence monstrueuse qui remplit tout et qu'on n'aperçoit nulle part assaille les gens au passage. Écrasante solennité d'un effroi qu'il sent universel. Des passants font peur à voir, leurs yeux brillent de fièvre, leurs rires sonnent par saccades comme des cris, leurs lèvres s'agitent dans le vide, laissant échapper des mots sans cohérence, et leurs bras gesticulent pour des absents. Cela rend plus sensible le contraste entre la fausse joie des maisons pavoisées, la gloire insolente des frontispices couronnés de trophées et l'angoisse qui se cache dans les cœurs. Cette description de la mobilisation paraît plus humaine, plus proche de la réalité. L'on sort enfin du cliché de la liesse générale et puérile qui donne l'impression désagréable que toute humanité avait disparu devant la joie cruelle d'aller tuer. L'angoisse, cette terrible angoisse face à la mort, plane sur ces hommes et ces femmes. Sournoise, sourde, elle s'insinue, et ces hommes obéissant à l'appel de la patrie tentent désespérément de la cacher à ceux qu'ils laissent, comme ils tairont leurs souffrances dans les lettres qu'ils enverront du front. Ces rires qui rappellent des cris renvoient aux écrits d'André Tanquerel, qui, désespéré, écrira à sa marraine de guerre: on prend nos cris de détresse pour des éclats de rire. Ces cris de détresse s'exprimeront dans la chanson de Crown que je vous laisse écouter.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au silo. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Cette version est chantée par Marc Augeret. Voilà, c'est sur ces paroles déchirantes que se termine le second volet des Poilus face à la mort. Nous nous retrouverons, je l'espère, pour le troisième volet, toujours sur Radio Boomerang 89.7 FM. En attendant, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur chroniquesd'unsiècle.com. À bientôt, au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.